Bonjour et bienvenue dans Par Intermittence, le podcast de Thalys Santé, le service de prévention et santé au travail qui s'occupe notamment des intermittents et intermittentes du spectacle. Je m'appelle Pierre-Emmanuel et je suis infirmier en santé au travail. Je vous propose d'aborder la santé et la prévention sous un nouvel angle, en écoutant le témoignage d'intermittents et d'intermittentes du spectacle qui nous parlent de leur parcours, leur métier et de son impact sur leur santé. Comment font-ils pour faire face aux risques professionnels et continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles? Leur passion pour leur métier permet-elle d'absorber tous les aléas? C'est ce que nous allons tenter de mettre en lumière. Installez-vous confortablement et faites connaissance avec Tiffany, perruquière. Bonjour Tiffany.
Bonjour.
Alors on a beaucoup de chance de t'avoir aujourd'hui, car je crois que tu es perruquière et qu'il y a peu de perruquières comme toi. Est-ce que j'ai le droit de dire ça?
Oui, tu as le droit de dire ça, effectivement. Il n'y a pas peu de perruquières, il y en a beaucoup, mais il y a peu de perruquières qui ont aussi d'autres compétences comme moi.
Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus?
Bien sûr, je travaille dans un atelier d'effets spéciaux qui a un secteur, poilage, poil. Et je travaille aussi la plume, la fourrure, l'implantation dans le silicone et le floc. En fait, c'est des tout petits poils synthétiques qu'on projette pour un effet de fourrure pour les faux animaux, pour éviter d'acheter de la vraie fourrure.
Alors, comment t'en es venue à faire ce métier? Parce que je crois que t'es fan des films d'horreur de base.
Ouais.
Est-ce que ça a influencé un petit peu ton parcours pro?
Ouais, carrément. Moi, j'ai vraiment un parcours atypique parce que j'ai commencé, en fait, à bosser juste après mon bac. En fait, j'ai fait un stage dans un atelier d'effets spéciaux en dernière année de bac pro et j'ai été embauchée par la suite. Et du coup, j'ai pas eu à faire des études d'art approfondies ou même de maquillage. Donc en fait, j'ai eu vraiment de la chance d'être pris sous l'aile d'un des responsables de l'atelier qui a été bien gentil de m'accueillir. J'ai été assistante en make-up et depuis, je suis restée avec eux et j'ai divagué après suite à de nombreux projets en poil, en spécialité poil. Plus précisément, la transition qui m'a permis de partir dans ce secteur justement de perruquerie, c'est un projet qui a été conséquent, qui avait besoin de petites mains. Et du coup, j'ai eu la chance de partir avec la responsable de ce secteur et d'apprendre tout grâce à elle. Assez agréable de travailler avec des gens comme ça qui sont talentueux et qui en plus te permettent d'être libre dans ton imagination et ta créativité. Et en plus d'apprendre vraiment des techniques pour le coup qui sont atypiques, qui font qu'on est très peu nombreux à faire ce métier en France. Ouais.
T'as toujours été très manuel auparavant ou t'as tout appris sur le terrain?
Non, j'ai toujours été manuelle. Depuis enfant, ouais, je suis manuelle et c'est pour ça que j'ai eu de la chance aussi d'avoir des parents qui m'ont laissé faire tout ce que je voulais. Ouais, étant fan de cinéma, merci maman. pour moi, c'était un peu une évidence de partir travailler dans ce milieu, quoi.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier, l'illustrer avec des exemples?
En atelier, on a des horaires assez fixes. On fait généralement 9h-19h et... En fait, on a des projets qui sont décidés par les responsables. Ensuite, on a des prises d'empreintes à faire si c'est pour une perruque sur le comédien et pour faire une perruque sur mesure, quoi. Et ensuite, on le met sur un galbe, on place des tulles. Donc, c'est un peu comme de la résie, du collant résie, mais avec une matière un peu plus rigide où on implante dans chaque petit trou, à l'aide d'un crochet, un cheveu par un cheveu. Et on fait toute une perruque comme ça.
En préparant l'enregistrement, tu m'as dit que tu étais un des derniers maillons de la chaîne. Pourquoi tu dis ça?
Parce que généralement, quand on fait de l'implantation dans le silicone, donc pour par exemple des cadavres, des faux animaux, ce genre de choses, en fait, on est un peu l'élément qui donne vie à l'objet, en fait, avec la peinture. Évidemment, il y a toujours un travail de repeinture par-dessus. Et on est vraiment ceux qui donnent vie à l'objet ou à la créature, à l'animal.
Je crois qu'une des phases dans ton travail que tu préfères réaliser, c'est la phase de création. Pourquoi?
Parce que c'est le moment où on laisse libre cours à l'imagination et à pouvoir tester des nouvelles techniques et des nouveaux produits. Il n'y a pas de limite.
Je crois qu'il y a quelque chose aussi qui est très difficile à réaliser, ce sont les cheveux blancs.
Ouais. Alors, au niveau de la vue, c'est compliqué. Ouais, c'est vraiment le pire, les cheveux blancs. Déjà, parce que c'est très dur de s'en fournir. Quand on en a besoin et quand on fait des perruques en cheveux naturels, souvent c'est des dons. Donc c'est à nous de les trier, d'en prendre soin. Et c'est très dur à implanter parce que le tulle, c'est déjà très petit. Mais en plus de ça, quand on fait cheveux par cheveux, des cheveux blancs, c'est à moitié transparent. C'est ma hantise. Puis il y a des années comme ça où il n'y a que ça à produire. C'est compliqué.
Donc tu travailles en atelier, mais est-ce que ça t'arrive aussi de travailler sur le set? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'organise pour qu'on puisse visualiser?
Ouais, je travaille souvent sur le set en fin de parcours, en fin de créa. Bah, je suis obligée, comme je fais des choses qui sont assez atypiques, d'être sur place pour prendre soin de la créature, de l'objet, de ce qui va être sur le set et du coup, ouais, recoiffer, prendre soin de ce qui est sorti en fait. Du coup, ouais, je vais souvent sur le plateau, mais c'est très peu de temps parce que souvent c'est tellement atypique que c'est des choses qui sont pas à la vue dans le film très longtemps puisque c'est des trucs un peu horrifiques, donc c'est 30 secondes.
Il y a un projet sur lequel tu as travaillé dernièrement qui t'a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, je crois.
Ouais, c'est un projet pour Netflix, Loup-garou. Du coup, ouais, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. C'était très créatif, mais c'était aussi très épuisant.
Comment se passe le processus de création lors de ce type de projet ?
Alors, l'atelier va être contacté par la production pour expliquer le scénario et ce qu'ils aimeraient, ce qu'ils attendent de l'atelier, surtout en production. Et suite à ça, en fait, on a des mois de recherche, des semaines de recherche pour trouver tout ce qui est matière, texture, différentes techniques. Et ensuite, on lance l'affaire, quoi. On se fait une petite équipe et on part en production, en préparation. Et puis après, on suit sur le tournage tout ce qui se passe.
Et tu dois créer des nouvelles techniques de travail pour ce type de projet ou tu as déjà ton plan en tête ?
Il y a un plan basique, on a des techniques classiques qu'on utilise, mais on est toujours à la recherche d'évolution et on a quand même de la chance que notre métier permette de mettre en place d'autres techniques, de créer aussi d'autres choses pour rendre les choses de plus en plus réalistes et même qui soient plus à même de se rapprocher du désir du réalisateur.
Tu as mis combien de temps pour créer des loups-garous ? Est-ce que tu fais que ça pendant 2 mois ou est-ce que tu as d'autres projets transversaux en même temps ? Comment on peut quantifier un petit peu ?
Là, c'était un très gros projet, donc on peut pas avoir d'autres projets en parallèle parce que c'était très très lourd. En fait, on a eu très peu de temps. On a surtout pris beaucoup de temps à la recherche de techniques et d'accord avec la réalisation pour tout ce qui était couleur, tout ce qui était matière, tout ce qui était faisable. J'imagine dans le devis, il y a aussi une question derrière de coût. Et ouais, on a pris quand même beaucoup de temps. Là, on avait 4 loups-garous à faire et on a eu 3 mois. Donc on a fini par se monter une grosse équipe et faire des bons horaires pour réaliser ça dans les temps, quoi.
Poil par poil pour le loup-garou ?
Non, pas que poil par poil, en fait, on a tout un costume qui a été réalisé en lycra où on a dessus collé de la mousse pour faire des effets de muscles, des malformations qui rendent la personne animale. Et par-dessus ça, on a une matière fantastique qui a été créée aux États-Unis qui s'appelle le NFT. Donc c'est comme un tissu qui s'étend, on peut vraiment le mettre dans tous les sens avec des poils synthétiques et des poils de yak mélangés. Donc on peut choisir tout un panel de couleurs un peu comme une moquette, c'est horrible de dire ça, mais c'est un peu le cas. Et ensuite on a eu des têtes animatroniques, donc un casque à l'intérieur avec des cerveaux qui permettent de bouger toute la tête, les babines, les yeux. Et par-dessus ça, il y a une coque en silicone où on a fait une partie en floc pour faire tout ce qui est fourrure courte. Le floc, c'est une matière synthétique. C'est des tout petits poils donc, qui vont du 0,1 mm au centimètre qui est projeté grâce à l'électricité statique sur une matière qui est préalablement collée. Ensuite, on peut le brosser, le raser et on peut faire des mélanges de couleurs de floc pour justement donner de la profondeur à la matière et puis à la fourrure. Et puis après, il y a eu un travail d'implantation directe, comme on appelle. C'est implanter du cheveu dans la matière du silicone un par un ou du poil. Voilà.
Ça doit avoir une saveur particulière lorsqu'on termine ce type de projet. Comment on se sent ?
Très fatiguée déjà. Et non, c'est très cool. Il y a beaucoup de fatigue, mais il y a aussi beaucoup de critiques après, quand forcément ça sort. Et il y a un retour sur notre travail. Et en tant qu'artiste, c'est assez compliqué parce qu'on est tous un peu critiques par rapport à notre boulot, mais c'est ça qui aussi est intéressant, qui nous permet tout le temps d'être en évolution et d'utiliser des nouvelles techniques et d'être curieux aux nouvelles techniques et à se former à tout, quoi, pour être de plus en plus professionnel.
Est-ce que le rendu à l'écran est si différent du rendu que tu avais dans ton atelier? Est-ce que ça t'a marqué, cette différence?
Ouais, c'est plus cool à l'écran, souvent. Parce que, ouais, c'est mis dans un décor et il y a de la lumière et puis il y a le jeu d'acteur ou de marionnettiste qui fait tout, quoi. Et puis même l'œil du réal, du chef-op. En fait, c'est vraiment un travail d'équipe qui est nécessaire. Et en atelier, on est heureux, on est content de ce qu'on crée, mais quand on le voit vivre, c'est génial.
Je suppose que vous avez des équipements protection individuelle lorsque vous travaillez au sein de l'atelier.
Oui. Oui, on a de la chance d'avoir un atelier qui est très sécure. Donc on a énormément de panneaux d'indications pour tout ce qui est sécurité chimique, même des uniformes qu'on doit porter, des éléments supplémentaires type masque, bottes de sécurité, tout ça, et dans chaque pièce. Et en plus, je pense qu'on a aussi beaucoup de chance d'être des collègues bienveillants et on se regarde les uns les autres et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre dans une pièce, on indique quel produit on utilise et quel élément ne doit pas être en contact avec et surtout quel élément on doit rajouter sur notre uniforme pour être le plus sécure possible, quoi.
À quel moment tu as été sensibilisée aux risques chimiques?
Très tôt à mon arrivée dans l'atelier. Cet atelier, c'est un peu différent des autres, mais en gros, on est tous un peu passés en stage. Et c'est souvent le maître de stage qui fait le tour et qui t'apprend toutes les règles de sécurité. Et inversement, quand toi, tu chaperonnes quelqu'un, tu te dois de lui donner toutes ces règles. C'est une obligation, en fait.
Tu disais tout à l'heure que tu pouvais travailler de longues heures sur un projet. Est-ce que c'est difficile d'articuler l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle?
Ouais, c'est assez compliqué. Après, il faut trouver un équilibre. Chacun trouve son équilibre. C'est très subjectif. Mais pour ma part, ouais, y a des moments où c'est compliqué et je m'octroie de très bonnes vacances après des gros projets. J'ai beaucoup de chance d'avoir eu des parents qui m'ont donné le goût du voyage et du coup pour moi c'est nécessaire pour ma santé mentale de pouvoir partir comme ça à l'autre bout du monde assez longtemps et de m'enrichir culturellement d'autres personnes, d'autres vies et même ça enrichit mon travail je pense de voyager et de prendre des inspirations artistiques, culturelles d'autres pays tout simplement.
Tu disais en préparant l'enregistrement que tu faisais aussi très attention à ton sommeil parce que parfois tu peux dormir 4 à 5 heures par nuit lorsque tu travailles beaucoup.
Ouais, quand on est en période de charrette, comme on dit, dans le milieu, ouais, c'est assez rare d'avoir des grosses nuits où on fait des horaires, enfin on compte pas nos heures sup. C'est assez dur d'avoir un sommeil réparateur et d'avoir des vraies nuits. Et ça, c'est important de pouvoir quand même le faire et de se l'octroyer. C'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire. Et puis même avoir une pratique de sport régulière, l'alimentation. Parce qu'on a souvent tendance à, même sur les tournages, à zapper un peu la pause déj parce qu'on a beaucoup à faire. Et en fait, non, c'est nécessaire. C'est même obligatoire.
Est-ce que tu sollicites tes proches lorsque tu es dans un tunnel de travail et que tu n'en vois pas le bout?
Bah, je l'ai appris récemment, suite à un très long projet où ça a été compliqué moralement pour moi. Pour le coup, ça a été une obligation de revenir à la racine, en fait, aux choses qui sont essentielles, donc la famille et les amis. Et il faut surtout pas hésiter, en fait, on a tendance à l'oublier parce qu'on est dans des projets qui font rêver et qu'on donne de nous parce que c'est un métier de passion très clairement, c'est plus qu'un métier vraiment. Et en fait on zappe notre vie perso et pour le coup on n'a même pas le temps de demander des news et on est vraiment dans un huis clos donc Ouais, c'est compliqué. Et des fois, quand on revient à la réalité, on a tendance à se sentir très seul et à s'isoler. Et du coup, je l'ai appris à mes dépens que finalement, c'est bien aussi de prendre des nouvelles des autres parce que eux aussi ont besoin de nous.
Donc c'est le risque du métier passion, c'est que ça prenne beaucoup de place.
Ouais, ça prend énormément de place parce que c'est, comme je dis, c'est plus qu'un métier et nos collègues sont plus que des collègues. En fait, ça devient des amis, et surtout quand on part à l'étranger sur des tournages assez longs, en fait, où on est vraiment coupé du monde, on n'a pas le temps d'appeler notre famille, d'avoir une routine comme on a enfin, chez nous. Et du coup, ça devient un peu eux nos béquilles. Et c'est vrai que bah, quand on revient à la réalité, il y a vraiment ce sentiment de solitude qui est présent. Et du coup, des fois, on a un peu du mal à savoir vers qui se tourner. Mais ouais, il faut se rappeler qu'on a des amis qui sont là pour ça.
Quels sont les éléments que tu préfères dans ton métier?
Il y a plusieurs choses. Déjà, la liberté de créativité. Et en plus, le fait que, étant un métier de passion, on passe énormément de temps avec des collègues et on part souvent très longtemps avec des collègues à l'étranger ou en tournage. Et ça crée des très, très fortes amitiés. Et ça, c'est assez cool parce que, quand justement on n'a pas notre famille, on a nos amis, collègues qui sont là et on se marre et on fait tout pour que tout se passe bien. Et puis c'est un travail d'équipe, donc tout se passe nickel. Et ça, c'est méga positif et c'est tout ce que j'adore dans ce métier.
Est-ce que tu aurais des conseils à donner à des futurs collègues qui pourraient arriver dans ton atelier?
Ouais, être motivé, s'accrocher, au début, ça va être très dur. Bah, parce qu'il va falloir accepter beaucoup de métiers, des projets qui ne nous plaisent pas forcément et vraiment tout faire pour avoir le plus de contacts possible. Mais après, faut surtout pas oublier que les pauses sont obligatoires, qu'il faut surtout bien manger, que c'est nécessaire de faire tout ça. Et les heures supplémentaires. Ça, franchement, mais même pour nous aujourd'hui, genre si la nouvelle génération, elle pouvait... vraiment en parler de ouais, les heures sup, c'est pas possible.
Pourquoi tu dis que c'est pas possible?
Bah, à partir d'un certain âge, c'est plus possible en fait. On tire trop sur la corde. Et parce que toutes ces années au départ sont difficiles, on zappe des pauses, on zappe de manger, on zappe de s'hydrater, on zappe ouais, le sport, l'alimentation correcte, le sommeil correct. Et en fait, tout ça, ça engrange énormément de problèmes de maux physiques et psychologiques. Et je pense que pour le bien du métier et ne pas partir en burn-out, c'est nécessaire de... Et puis c'est surtout légal. Donc, ouais, de mettre les choses cartes sur table, bah, les heures supplémentaires, elles sont payées, mais... Et puis c'est des horaires, je ferai pas plus de 2 heures ou je ferai pas plus de 3 heures, quoi. C'est encadré, il faudrait que ça soit.
C'était le 14e épisode de Par Intermittence, un podcast de Tali Santé, le service de prévention et santé au travail qui s'occupe notamment des intermittents et intermittentes du spectacle. Merci à Tiffany pour son témoignage et à la lettre du musicien qui nous accueille dans son studio. Nous nous retrouvons très prochainement pour un prochain épisode. D'ici là, rendez-vous sur talisante.org et les réseaux sociaux pour vous informer sur la prévention et la santé au travail.